يوفي.
Les coups, l'âme, et on revient dans notre étude du Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kouk, Morenu ve Rabenu Ateret Roshenu, le patron du processus de la Géoula et comment il va nous l'expliquer. Il s'appelle Eretz Israël. Nous sommes arrivés au chapitre 6. Ok ? Donc, de quoi on a parlé jusqu'à maintenant ? Jusqu'à maintenant, on a parlé donc de l'essence même du lien qui existe entre pages Yud Aleph. Donc, on a parlé dans le premier paragraphe de l'essence du lien qui unit le peuple juif à la terre d'Israël. Deuxième paragraphe, on a expliqué que ceux qui ne comprennent pas ce lien, c'est les gens qui se sont éloignés de Torah ta Kabbalah. Dans le troisième paragraphe, on a expliqué que seul en Eretz Israël, Am Israël peut produire quelque chose de propre à lui. Dans le quatrième paragraphe, on a appris que l'endroit influe sur la réflexion. On n'a pas la même réflexion quand on est ici et quand on est là-bas. Dans le cinquième paragraphe, on a parlé du dimion, la force de l'imaginaire qui est tellement différent entre là-bas et ici. Ok ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire maintenant ? Perek, Vav. Peulat, Ruach HaKedusha, Anikletet Be'eretz Israël, Poelet Hi Tadir. גם אם נזדמן הדבר ויצא האדם חוצה לארץ על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת. טוב, alors, de quoi on est en train de parler?
De nos parents et de nos grands-parents qui étaient obligés d'être en galoute, qui sont nés là-bas, malgré eux.
Et toi, tu t'es concentré sur la fin de la phrase?
Oui.
Allez. Mais c'est ça, c'est important. Enfin, le shiur, il est Leilui Nishmat, Laurence Esther Tova, Bat, Liliane, Léa. Okay. Donc non, on ne peut pas se contenter juste de la fin de la phrase. Et là, on va essayer de comprendre de quoi on est en train de parler. Yesh.
C'est l'endroit où on a le plus de la Kedusha. C'est l'endroit, même quand on va cette Kedusha, on la porte avec nous. C'est-à-dire qu'elle est imprégnée, on s'imprègne de ça.
Alors ça, tu as tout à fait raison. Qu'en Eretz Israël, il y a... Alors, non, ce que tu dis est très vrai. Mais ce n'est pas ce qu'il y a marqué ici. Non, parce que tu as oublié un mot.
Nikletet.
Oui, non, ça. Nikletet, t'as raison, mais le problème, c'est pas la Kedusha qui est Nikletet. Ça, t'as oublié un mot qui change. Ce que t'as dit est très vrai, d'ailleurs. Ce que t'as dit est très vrai, tu as dit qu'en Eretz Israël, tu.
Ce que je dis, c'est ce qui a marqué.
Alors, non, tu vas voir que t'as oublié un mot. Un mot qui change, en fait, le sens. Je dis simplement que ce que tu dis est vrai, qu'en Eretz Israël, tu réceptionnes mieux la Kedusha. C'est Nakhon. Tout à fait vrai. Mais c'est pas ici ce qu'il veut nous enseigner. Puisque ici, il ne parle pas de la Kedusha, mais il parle de c'est quoi qui est Niklat ? C'est Ruach HaKedusha. Ruach HaKedusha, c'est ce que nous, on va appeler en hébreu moderne Ruach HaKodesh, ou alors les bribes de la prophétie. C'est-à-dire qu'on parle ici pas seulement de la Kedusha qu'il y a dans la terre d'Israël ou dans une mitzvah que tu vas faire, mais il y a, et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais qui est quand même le plus important. Eh bien, quand on parle de lien entre la créature et le créateur, c'est quoi ce lien ? Ben, ça dépend de quelle créature on parle. C'est-à-dire, si on parle du lien qui existe entre le monde et le créateur, eh ben, ce lien, c'est la création. Mais si on parle du lien qui existe entre l'homme et le créateur, eh bien, c'est la névoie. Or, la névoie, qui est donc ce qui nous fait être en connexion avec Dieu, eh bien, la névoie, non seulement elle s'est arrêtée depuis pas mal d'années, mais en plus, elle a des règles bien spécifiques. qu'est-ce qui nous reste depuis qu'il n'y a plus de Nevoa ? Il nous reste ce qu'on appelle Roach HaKodesh. Pas de la Nevoa, mais des vestiges de quelque chose. Eh bien, là, le Rav Kook nous dit, Peulat Roach HaKedusha, Nikletet Beretz Israël, Poelet Itadir. C'est-à-dire qu'ici, il y a toujours ce lien avec, alors si ce n'est pas la Nevoa, eh bien, c'est les bribes de quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Donner un exemple qui montre à quel point.
Les voix pour Matan Torah.
C'est la même chose.
C'est pour un homme.
C'est la même chose. Matan Torah, comme tu le sais, ce qu'on va fêter dans deux semaines, n'est absolument pas le don de la Torah. Parce que comme tu le sais, à Shavuot, on n'a pas reçu la Torah. Tu sais bien ça. À Shavuot, on a reçu le Dibour. La Torah, on l'a même, on la recevra à Yom Kippour. Mais on a reçu le Dibour. Donc, Mahamad Ar-Sinaï, c'est la Nevoa. C'est le moment où la Nevoa n'est plus seulement l'apanage d'un homme, mais elle devient la propriété du peuple juif. Ok ? Donc, Nevoa, Mahamad Ar-Sinaï, Otodava. D'accord ? Donc, où est-ce qu'on peut voir, eh bien, cette différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz au niveau de Peulat Ruach HaKodesh ? Mais j'ai mis un exemple très simple. On peut voir la différence fondamentale qu'il y a entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. C'est-à-dire, eh bien, il y a dans le Talmud, que ce soit Babylone ou Jérusalem, deux styles de textes. Il y a des textes qui sont halakha et il y a des textes qui sont agada. Ok ? Dans le Talmud de Babylone, la séparation est claire entre Halakha et Agada. Et non seulement la séparation est claire, mais jamais le Talmud de Babylone n'est possèque Halakha Alpi Agada. Ok ? C'est deux dimensions différentes. Halakha Zasechel, Agada. Donc on ne va pas être possèque Halakha dessus. À Talmud à Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, qui a été écrit où ça ? À Tibériade. C'était pas loin. À Tibériade, n'achon pas à Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem, eh bien, lui, la frontière entre Halakha et Agada, elle est extrêmement... elle est volatile, quoi. Elle n'existe presque pas. Et on va pouvoir très souvent être possèque Halakha, Alpi Agada. Par exemple, d'après le Talmud de Babylone, on n'a pas le droit de prendre un loulav yavesh pour Soukhot. On n'a pas le droit de prendre un loulav, un branche de palmier sèche. Lama. Pourquoi on n'a pas le droit de prendre un loulav sec ?
Il est coupé. Il faut que tu
l'entends. Non, tous les loulavs, ils ont été coupés. Oui, tu ne les prends pas de l'arbre. Ce qui n'est pas fait, nous ? Parce qu'on fait toute une étude des versets. Et qu'on te dit que c'est ça, Cliot, cachot, le prix, et sadar, et que donc ça doit être une, ça doit être joli, et ça doit être une yavesh, c'est pas joli, machin. On fait une étude de texte. Et l'étude de texte va nous amener à la prise de conscience à la rite qu'on n'a pas le droit de prendre un loulav yavesh. Dans le Talmud de Jérusalem, on n'a pas le droit de prendre un loulav yavesh non plus. Mais sauf que la raison, c'est un verset du Tanakh qui dit, lo ametim yalelu ya. Les morts ne glorifient pas Dieu. Or, eh ben, le loulav yavesh, il est mort, donc pas possible. Tu comprends que c'est pas du tout un argument intellectuel. C'est un argument de Hagada. Mais là-bas, on n'a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on fait cette grande différence ? Eh bien, les amis, c'est très simple. Parce que...
Donc,
c'est
pas ça dans le
Talmud de Babylone. Non, c'est pas ça dans le Talmud de Babylone. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là ? Eh bien, simplement, parce que Béret Israël, Peulat Ruach HaKedusha, eh bien, elle est toujours là. Et donc, c'est au milieu de notre étude de la Halakha, la Agada, elle est présente. Oui ?
Dans la phrase, là,
oui,
il y a un mot qui me gêne.
Dis-moi.
À la fin de la phrase, il y a marqué Tadir.
Oui.
On ne voit pas dans les rues de Jérusalem des gens qui amènent des courottes, pour la
transmettre. Bien fait. Très bonne question. Tu dis, il y a marqué ici qu'en fait, cette Péoula-là, elle reste en Eretz Israël, c'est-à-dire tout le temps. Tu dis, on ne voit pas de gens qui sont là, qui se promènent, qui sont prophètes. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, c'est tout le temps. OK ? Effectivement, de prophétie, tu n'en vois pas dans les rues. Parce que la prophétie a cessé depuis 2300 ans. Aval, et c'est là que Rav Kook vient t'expliquer, la péoula du roi HaKodesh en Israël, oui, elle est présente tout le temps en Israël. Comment ? Eh bien, justement, l'exemple que je t'ai donné, c'est un exemple que dans le Talmud de Babylone, on continue à utiliser la Haggadah, c'est les vestiges de la prophétie. Et donc, on continue à utiliser ça. Ça fait partie de notre ADN d'études de Torah. Alors que là-bas, non.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'étude de la
Gemara, de la Hot, des choses comme ça. Ça veut dire que... Non. Il y a des choses qui sont des vestiges de la Nevoa et il y a des choses qui ne sont pas des vestiges de la Nevoa. La halakha, ce n'est pas un vestige de la Nevoa. La halakha, après que Dieu nous ait parlé, le débat talmudique, halakhique, c'est Sechel.
On fait le limoud.
Alors, c'est ce que je te dis. Le Rav Kook te dit, Nachon, mais dans le limoud, il y a limoud et limoud. Il y a un limoud qui fait une séparation complète entre halakha, ce qu'il faut faire, et agada, ce qu'il faut penser et comment, qui on est. Et en Eretz Israël, il n'y a pas cette séparation. Parce que la péoula, l'action du roi HaKodesh, elle est présente en Israël malgré la fin de la névoie. Quand il y a la névoie, je ne t'en parle même pas. Mais quand il y a la fin de la névoie, il y a toujours cette péoula de roi HaKodesh ici en Eretz Israël. Prenons un autre exemple que vous connaissez peut-être très bien aussi. Il y a des rabbins qui étaient déjà des grands rabbins en Chutz La'aretz et qui sont venus en Israël. Ce n'est plus les mêmes. C'est devenu des rabbins de Ligue des Champions. C'est plus les mêmes. Et on voit même une influence dans l'écriture. Le Rav Kook, quand il est en Chutz La'aretz et qu'il écrit, on a vraiment l'impression, d'après le Ktaviad, hein, je parle l'écriture en elle-même, pas ce qu'il dit. L'écriture en elle-même, en Chutz La'aretz, Zemesouda. Quand il arrive en Israël et qu'il écrit, tout change. L'écriture a changé. On dirait que ce n'est pas le même mec qui écrit. Les lettres sont beaucoup plus arrondies, ça part dans tous les sens. Il y a Shefa Ruach HaKodesh qui est en train d'arriver et c'est complètement déstructuré parce que y a la Kdusha qui arrive dans tous les sens. Maintenant, ici, ce que nous dit le Rav, c'est que cette Péoula, elle existe tout le temps. Gam im nisdamen adavar, même si il est arrivé que l'homme en question. Yatsa le chutz la'aretz. O aliyede taout, o aliyede zosiba mukhachat. Dit quelqu'un qui a ce tuyau de roi HaKodesh qui est branché chez lui, même s'il part en chutz la'aretz, alors ça continue. Donc on a dit, par exemple, Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav, il vient en Eretz Israël. Il était déjà Rabbi Nachman avant de venir en Israël. Quand il arrive en Israël, il ne va pas y rester longtemps en Israël. Il reçoit un bonus de roi HaKodesh énorme. Et quand il repart, parce que c'est l'époque de Napoléon et c'est l'époque où c'est impossible de vivre ici concrètement, il repart et il dira à tous ses élèves que la Torah qu'il a acquise pendant les quelques temps où il était en Eretz Israël, ça éclipse complètement toutes les années de Torah qu'il a enseignées avant. Et sa nouvelle Torah, c'est la Torah d'Eretz Israël. Rien à voir avec ce que j'avais avant.
Est-ce qu'il soit enterré en Israël?
Il est mort là-bas, je vais le faire. Il dit, il faudrait ramener ses ossements en Israël.
Ah oui, bien sûr.
Non. Je t'invite à... Tu vois, tu te rappelles ce que tu disais tout à l'heure sur les No Man's Land et tout ça, machin? Bon, bah, Ouman, ça fait partie de ces No Man's Land. Bon, c'est pas l'État d'Israël, tu vois, mais essaye. On verra. Peut-être qu'on se retrouvera, peut-être qu'on ne se retrouvera pas. Bekitsou, donc ça c'est un exemple. Oui.
Il y a quelque chose à ressentir. La personne qui vit ici et qui part en cours pour une raison quelconque. Mm-hmm. Et moi j'ai ressenti très fort ça. J'allais voir mes parents. J'arrivais à l'aéroport. Si mes parents étaient là-bas, je ne pouvais pas rester. Je ressentais très fort que c'était pas ma place.
Alors ça, tu vas voir, après, tu vas voir ce que tu viens de dire va avoir une résonance un petit peu plus tard dans le texte. Alors, donc, voilà, celui qui en est en Israël et qui part au allié des Taout, au allié des Siba Mukhrachat. Comment ça peut être allié des Taout? Non, mais c'est le Taout.
Il a fait l'erreur de l'appréciation.
Non, là, pour lui, c'était une Siba. Taout. Taout, pas chute. Taout, ça veut dire que ce n'est pas de sa faute. Il faut que Ben Adam ait une faute. C'est arrivé à plein de gens qui ont été exilés par les Turcs. Pendant la Première Guerre mondiale, toutes les personnes qui étaient en Israël, les Juifs, qui n'étaient pas des sujets de l'Empire ottoman, ont été dégagées d'Eretz Israël.
Hein ? Ils sont peut-être partis où ?
Tu retournes en Russie, moi je m'en fiche. Parce que la Russie, elle n'était pas avec l'Empire ottoman. Donc, vous êtes des espions, vous avez des trucs. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ça peut arriver que quelqu'un, il est mis dehors. Donc, c'est Taout. Oh, Aliyede, Siba, Mukhrachat. C'est une obligation. Ça peut être une obligation familiale, ou ça peut être, par exemple, le Rav Kook, qui part à la fin de l'année 1913. Pourquoi il part? Il était bien en Israël.
Pour représenter justement les intérêts de
l'Israël.
Le congrès.
Quel congrès?
Le congrès des Ravins, non?
Voilà. Il y a la Veïda de Agudat Israël, et il a été invité par l'Agudat Israël, par en l'occurrence le Chafetz Chaim, pour parler de comment il faut se battre contre l'assimilation. Et le Rav Kook est invité d'honneur d'Eretz Israël pour parler de la version Eretz israélienne. Comment on se bat contre l'assimilation. Et donc il dit Zedvar mitzvah, Nechayab l'alechet. Donc il y va. Mais quand il y va, la Première Guerre mondiale éclate et il est bloqué en Europe et il ne peut pas partir, pas rentrer. Sauf que, à un moment, alors il y a plein de péripéties, hein, il va passer par la Suisse, de la Suisse il va arriver en Angleterre et à un moment donné, il va écrire là-bas en Angleterre un livre qui s'appelle Resh Milim. Regarde, il y a plein de parties du livre Orot qu'il a écrit aussi quand il était en Angleterre. Mais le livre Resh Milim, il l'écrit quand il est en route à l'arrêt. C'est quoi ce livre? C'est Kol Kulo Kabbalah. Est-ce qu'on va l'étudier ensemble? Pas tout de suite. Parce que on va rien y comprendre. Donc ça sert à rien. C'est un livre dans lequel le Rav explique quelle est la signification de chacune des lettres de l'alphabet hébraïque. Autant te dire qu'il faut s'accrocher. Ok? Donc, c'est un livre comme ça, Kol Kulo Ruach HaKodesh. Le livre parvient à Jérusalem. Il envoie une copie à son élève, qui est toujours à Jérusalem, à Rav. Non. Non. Non plus. Non plus. Rav Tzviuda, il est aussi en Europe à ce moment-là. Ce n'est pas encore son élève, c'est son fils pour l'instant. Non, il y a un autre qui est son grand élève. Son premier grand élève. Bon, il y a son fils, c'est son fils. Mais son premier grand élève, c'est
Goren.
Non.
Ben Eliezer.
Yodam Eliezer. Ben Eliezer, tu parles.
C'est pas son élève.
Ils avaient des contacts, bien sûr, mais c'était son élève. Enfin. Adgaon. Ben non. Non, mais d'accord, j'ai tendance à penser que c'est vrai, mais ça en fait pas son élève. Il y est resté quoi? Même s'il y était, il y a été quelques mois. Non, il avait un grand élève, et le Rav Kook, il avait trois élèves. Il avait son fils. Plus tard, il a eu le Rav David HaKohen à Rav HaNazir, mais le premier qui s'est attaché au Rav Kook et en fait qui lui a ouvert les portes d'Eretz Israël, parce que comme lui, il était déjà considéré comme un Gadol Batora, le fait que ce Gadol Batora se soumette au Rav Kook, eh bien, ça lui a donné la légitimité aux yeux de tous les rabbins d'Eretz Israël. Ce monsieur, c'était Agaon Arav Yaakov Moshe Harlap. Ok? Arav Yaakov Moshe Harlap. Je vous invite à retrouver le cours que j'ai donné sur le Rav Harlap, dans la série des cours sur les personnages, vous marquez Rav Yaakov Moshe Charlap sur ma chaîne YouTube et vous retrouverez l'histoire de ce personnage extraordinaire. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, eh bien, une partie, enfin, le livre arrive.
C'est lui qui a été dans les archives du Vatican.
Non.
C'est pas le Rav Moshe Charlap,
non. Non. Tu fais allusion au Rav Kapar.
C'est Menaché.
Au Rav
Kapar.
Ah, au Rav Kapar.
Et le Rav Kharlap vient de Pologne, le Rav Kapar vient du Yémen.
Le Rav Menaché, il est bien né aussi.
Pas vraiment le même style. Kharlap.
Il
y a une
rue.
Oui, il y a son nom, évidemment. Très, Reich, Lamed, Tchoupchik. C'est très des guillemets comme ça. Et P. Parce que c'est un nom de famille bizarre, parce que c'est un nom de famille qui est en fait des initiales. C'est-à-dire, Kharlap, c'est, si je me trompe pas, c'est Chacham Rishon, les rabbinés Pauline. C'est une famille particulière. En tout cas, quand il reçoit le manuscrit de Reish Medin, Rav Kharlap dit, incroyable. Comment est-ce que tu as pu écrire un truc comme ça, qui n'est que Kabbalah et Roi HaKodesh, là-bas? Il dit, En Safek, qu'il y a un tsinor qui te relie à Eretz Israël. Parce que sinon, tu n'aurais pas pu écrire un texte comme ça, là-bas. C'est-à-dire, donc c'est ce qu'il nous dit ici, le Rav Kook, ça continue cette péoula, même si tu dois sortir en fait ça là. Arrête, gamme à Nevoa! גם הנבואה כשחלה כבר בארץ ישראל אינה פוסקת גם בחוץ על הארץ. היו היה דבר השם אל חזקאל בארץ כסדים, היו מפני שכבר היה. יפה, תעברי כאילו חוץ על הארץ יפה נבואה. זה לא רב קוק, לנבואה זה en ארץ ישראל. מלוס כאלה קומוסי en ארץ ישראל, אביין, סי לה פרסון, לנביא פר אנחול, ça peut continuer.
C'est mieux régimité.
Je ne sais pas, je n'ai pas vu le contrat, mais il nous donne ici un exemple. Ayo aya dvar Hashem el Yechezkel be'eretz kasdim. Donc Dieu parle à Yechezkel à Babylone. Alors nous dit le Rav Kook, pourquoi? Parce que Ayo nipne shekvar aya. Comme il avait commencé à parler à Yechezkel en Eretz Israël, alors il lui a parlé également là-bas. Mais la réalité, c'est que tu connais d'autres exemples. Yona. Yona a un avis. Dieu lui parle quand il a Ninvé.
Pourquoi c'est pas une généralité? C'est des personnalités.
Parce que c'est... Non, mais pourquoi c'est pas une généralité? Parce qu'il y a très peu de prophètes qui sont sortis d'Eretz Israël. Tu prends la liste des prophètes, l'écrasante majorité, ils sont restés toute leur vie en Israël. Il y a très peu qui sont partis.
Il n'y a pas de prophétie en
France,
là. C'est un truc
clair. Il n'y a pas de prophétie en route de l'arrêt, sauf si elle a commencé déjà en Eretz Israël.
Il n'y a pas
de prophétie en route de l'arrêt, sauf si cette dernière a déjà commencé en Eretz Israël.
Mordechai avait commencé en Eretz Israël.
Et Mordechai, d'où tu as vu qu'il était prophète?
Esther. Pas de prophétie.
Il y a marqué Kohamar Hashem et Yechesel Esther.
Dans les livres de
Khatar
Yamim, on parle pas d'Esther.
Il y a la Megillat Esther déjà, elle est dans le Tanakh.
Ouais.
Ok, mais...
Bon. Mais bon, qui... Il n'y avait pas le roi HaKodesh.
Bien sûr qu'il y avait le roi HaKodesh.
Oh, le roi HaKodesh, il avait commencé en Israël. Or, il est venu après.
Si tu dis que Mordechai, c'est quelqu'un qui faisait partie des restes d'Israël, et que c'est là qu'il a reçu son roi HaKodesh, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il est jeune quand il part des restes d'Israël. Il est très jeune. C'est-à-dire, chez Rogla Mirushalayim, enfin, tu fais le calcul, il devait être très jeune. Mais l'homme est chané. Il y a la prophétie en Eretz Israël, ou alors, en route de l'Eretz, si ça a commencé en Eretz Israël, ou alors, si c'est pour Eretz Israël. Ah, pour faire revenir. Ok?
Oui,
il y a
deux prophètes en tout, qu'on a gardé.
Qu'on a leur nom.
Qu'on a leur nom.
Ceux appelés par leur nom, on en a 48 hommes et 7 femmes. Mais en tout, il y en a eu 1 200 000.
Waouh!
On dit la Gemara dans Masechet Megillah que dans toute la période de la prophétie, qui est à peu près 1500 ans de prophétie, eh bien, on a eu Kiflaim Keyotse Mitzrayim de prophètes. On a eu plus, le double de prophètes que de gens qui sont sortis d'Égypte. Donc, si on admet qu'on est sorti à 600 000, c'est-à-dire qu'on était en tout 1 200 000 prophètes. Pas tous en même temps, hein, pendant les 1500 ans de prophétie. Alors, attention, tous les prophètes ne se valent pas. Il y a un prophète de quartier, puis il y a un prophète d'État, c'est pas pareil.
Nous. Il y a Abraham.
Bah, oui, évidemment. Abraham, Abraham, c'est pas un petit prophète.
Oui. Il y avait
des écoles de prophètes. Alors, on a dit, c'est vrai, j'ai dit, soit, le clan, lui, est simple. En Eretz Israël, ou alors, en route s'arrête, si ça a commencé en Eretz Israël, ou alors, pour Eretz Israël. Abraham, c'est exactement le cas. Parce que qu'est-ce que Dieu lui dit en route s'arrête? Non, pas du tout. Ça ne lui dit pas en route s'arrête. Il lui dit, va en Israël. C'est la prophétie qu'Abraham reçoit en dehors d'Israël, c'est va en Israël. Après, en Israël, Dieu n'arrête pas de lui parler. Ça a l'air. Ok? Donc, Rabotai, Ayo, Mipne, Shekvar, Aya. Donc, ce tsinor continue, même lorsque, si jamais tu es en route l'arrêt. Par exemple, oui?
On peut donner un pourcentage de la population, du nombre de prophètes par rapport à.
C'est un bon travail que tu peux faire pour la semaine prochaine. Non, j'en ai aucune idée parce que je ne sais pas quand il y a eu combien et à quel moment. Non,
on a chiffré le nombre
surtout. Mais... Sur 1500 ans d'histoire. Après, je n'ai pas d'autres infos. C'est-à-dire, donc, je ne peux pas te dire. Mais la prochaine fois, sachez-le, que vous êtes appelé à aller en Foutzlaret pour le travail, pour je ne sais pas quoi, sachez que vous êtes toujours Mechoubarim à la Kdusha et Roi Hakodesh de Eretz Israël. C'est-à-dire ? Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est très important que si jamais vous allez en Foutzlaret, vous devez, au moins une fois, transmettre la Torah d'Eretz Israël là-bas. À un ami, à un cours, à une synagogue, comme jamais. Parce que vous avez un petit nom extraordinaire, il faudrait peut-être en faire profiter les gens. Ok, c'est chachou.
Ça veut dire qu'on pourrait venir en Israël, repartir, on a toujours le kécher avec Israël et vivre en cours.
J'ai pas compris, tu repartir... Non, c'est pas taoud. Si tu as décidé de partir, c'est pas taoud, c'est assour. Si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Par exemple, j'ai pas de parnassa. Si j'ai pas de parnassa, j'ai pas de parnassa. Ok? Mais si tu as le choix et que tu décides de partir, c'est issour. Issour, on va pas te faire une fleur parce que tu transgresses la Torah. C'est vrai? Tom, Shif'at Kodesh. She'utrela be'eretz Israël, c'est ce qu'on vient de dire, le fait que ça a commencé quand tu étais en Eretz Israël, mais la quête était et kol birure a kodesh animtsaim bechutz la'aretz bechol ha'ma'amakim. Ça, c'est très important. Tout c'est le fait que tu parles kodesh animtsaim bechutz la'aretz bechol ha'ma'amakim, ce qu'on appelle plus simplement l'ikuta nitzotzot. C'est-à-dire, comment est-ce que tu es capable de le Eretz Israël. Les laquettes, c'est-à-dire recueillir, cueillir, ramasser les étincelles de sainteté qu'il y avait en France l'Aretz. Comment est-ce que tu peux le faire? Parce que tu es attaché au roi HaKodesh d'Eretz Israël. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'a pas cette attache à Eretz Israël, il ne peut pas faire Birur HaNitzotzot. Caché. Il y a des grands rabbanim qui n'ont jamais mis les pieds en Eretz Israël. C'est ma Corée. On va voir. On va voir ma Coréita. Umekaravtam bekocha mosher elea. Et des fois, eh bien, c'est justement le fait d'être capable d'élever les étincelles de sainteté qui vont finalement les rattacher encore plus à Eretz Israël et un jour peut-être revenir. Comme tous ces gens qui sont des Israéliens qui sont partis en choule et qui continuent à s'acheter du houmous pour Shabbat. Ça m'attache. Quelque chose. Hercheu.
Le goût.
Le goût. Kol ma shekashé yoter. Ça, c'est ce que tu disais. Kol ma shekashé yoter. Lisbod et ta avir. Shel chutz al haaretz. plus c'est dur de respirer l'air de Koutlaret, comme tu dis, j'arrive à l'aéroport, ça va pas. Kol ma shemargishim yoter et ruach hatum'a shel adama temea, zehu siman leklita yoter penimi shel kdushat eretz Yisrael. La personne qui arrive à l'aéroport en roule et qui se sent pas bien, et qui sent qu'il manque quelque chose, qui sent qu'il y a un problème, plus il le ressent, plus ça veut dire que sa neshama, elle est théora. Théora. Elle est pure. Et moins il le ressent, plus il est bien quand il arrive en roule, ah, plus ça veut dire qu'il y a un problème avec sa neshama.
Tu
as pris les vacances ? Tu peux aller en vacances. Hachéla, est-ce que c'est tu te sens bien parce que c'est roule ? Ou tu te sens bien parce que tu t'es détaché un petit peu. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, il y a deux personnages qui ont vécu plus ou moins la même situation, mais qui ont réagi différemment. D'un côté, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et l'autre, le Rav Kook. Les deux se sont retrouvés en Suisse. Le Rav Hirsch est parti en Suisse en vacances, à la montagne et tout. Et quand on lui a dit, il était dans les montagnes de Suisse, et là, il a dit, quand Dieu me demandera là-haut, est-ce que j'ai regardé un peu ton monde? Eh bien, je lui dirais, ouais, j'étais en Suisse. J'ai vu le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque le Rav Kook était en Suisse, il était malheureux comme les pierres. Et là, son hôte, M. Kimri, l'a emmené faire un petit tioul dans les montagnes de Suisse. Et là, il s'est mis à pleurer. Il a vu les montagnes de Suisse et il a dit, Yerushalayim harim savivla. Jérusalem est entouré de montagnes. Et moi, je suis en train de regarder les montagnes de Suisse. C'est la différence de Neshama. OK ? Donc, plus tu es impacté par le fait que tu es là-bas, et plus ça montre quelque chose sur ton identité. Yoter Wazadouan, Zeus Siman, l'écrita Yoter Primit, Shel Kdushat, Eretz Israël, le Chesed Elion, Asher Lo Yazov Mimenu, Mishe Zacha, להסתופף בצלצלח של ארץ ישראל, של ארץ חיים. C'est des mots très shirim, lirim. Il dit, celui donc qui n'arrive pas à gérer d'être là-bas, c'est Chesed Elion, c'est une grande bonté qui vient de là-haut. Asher lo yazov mimenu, qui n'abandonnera jamais celui qui a réussi à atteindre la dimension de Eretz Chaim. Eretz Israël, c'est Eretz Chaim. Gam beitrachako venoto. Même si l'homme en question, il doit partir d'Eretz Israël et l'anoud, c'est-à-dire de partir de pays en pays, de génération en génération. Donc le mec, à un moment donné, ses petits-enfants, ils sont même plus nés en Eretz Israël. Ils n'ont même pas vécu en Israël.
L'anoud, c'est
Eretz. Eretz, exactement. Ils sont même plus, ils n'ont jamais vécu là-bas. Gam begaluto ve Eretz nediduto. Eh bien, il sera toujours raccroché. Hazarut. Chez Margishim, Bechutzalaret, Areim me kacheret yoteret, kol cheshek aruach apenimi le Eretz Israël, Vekdushata, Hatzipia lirota, mitgaberet, Vetziur hakikat tavnit kodesh shel Eretz, asher ene Hashem bat tamid, mireshit hashana vad acharit shana, mitameket yoter veyoter. Lorsque donc tu es dans cette errance en Khutsala Aret, Bagalout, eh bien on te dit, Azarout, le fait qu'on ressente qu'on n'est pas chez nous, voilà, ce sentiment d'être un étranger sur une terre étrangère, eh bien c'est ça qui garde ton attache avec Eretz Israël. À partir du moment où tu te sens heureux comme un juif en France, pour paraphraser un documentaire sympathique, et t'as rien compris.
Donc l'antisémitisme, c'est bien.
L'antisémitisme, c'est mal, parce que c'est pas bien de faire souffrir les gens. Mais l'antisémitisme joue évidemment un rôle. On préférerait ne pas passer par l'antisémitisme. Donc c'est mal. Mais ça joue un rôle, évidemment. OK ? Donc, Kerol, Shtamar Kishoter, Zar, plus tu te sens étranger à l'endroit où tu es, et plus, ben. Ce lien avec Eretz Israël, il est vrai. Agar, entre parenthèses, plus tu te sens bien là où tu es, plus tu disparais. Bien sûr. Alors, les communautés qui finalement ont atteint une osmose culturelle avec le pays dans lequel ils étaient, se sont assimilés. Hein ? Oui, c'est exactement ça. Il y a un documentaire qui est passé en plusieurs épisodes, j'ai pas tout vu, j'en ai vu un, sur les Juifs des États-Unis. Là, très récent. Et tu vois les mecs, ils sont américains. God bless America, quoi.
C'est américain avant des Juifs.
Ah, mais complètement. Complètement. Le drapeau qui flotte sera le drapeau américain. Et Israël, voilà, c'est bien, c'est sympa. C'est vrai, tu vois où va la communauté américaine. OK ? ומתעמקת יותר ויותר ויותר תשוקת הקודש של חיבת ציון של זכירת הארץ שכל חמודות בה כשורות כשהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל lorsque les gens se réveillent à cela donc au fin fond de l'exil ça a une action de c'est comme une source qui donne de l'eau en profusion et ça remplit des piscines entières. Les ravavot nishmot akshurot ima kol shofar shel kibbutz nidachim mitorayot du rassemblement d'exilés sonne verachamim rabim mitgaberim vetikvat chayim leIsrael mitnotzetzet. Et donc tout se réveille. Vetzemach Hashem olech uporeach. ואור ישוע וגאולה מתפצל ומתפשט כשחר פרוס על הערים. אמרו לגאולה. Eh bien, tout ce qu'on vient de dire, c'est réalisé de manière très concrète. Ce sera ma dernière phrase. Il y a deux personnes qui, au fin fond de l'exil, je le dis souvent, mais il faut ça rentre, au fin fond de l'exil, étudient Torah ta Kabbalah, sont reliées avec ce fameux Tzinor dont on n'arrête pas de parler. L'un, au fin fond de l'Ukraine, il s'appelle Rabbi Israël Baal Shem Tov. L'autre, au fin fond de la Lituanie, il s'appelle le Gaon de Vilna. Et les deux arrivent à la conclusion qu'il faut envoyer les élèves en Israël. Et donc, on envoie les élèves en Israël. L'Azma, eh ben, ça renforce le Yishuv. Ça renforce le Yishuv en Israël. Il a fait ce qui va permettre à Moshe Montefiori, lorsqu'il arrive, d'avoir des gens à renforcer. Et donc, comme il a renforcé encore un peu plus, ça va permettre en 1882, d'abord à l'organisation de Chovevé Tzion de voir le jour, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis après, cette organisation, elle va montrer qu'on peut. Donc, il va y avoir en 1882 la première alia. Et puis après, il y aura la deuxième alia. Et puis après, il y aura la troisième alia qui va amener à 100 000 juifs habitants en Israël, ce qui va amener aux Anglais, lorsqu'ils conquièrent le pays, à proposer la déclaration Balfour, parce qu'il y a 100 000 juifs en Israël, donc l'idée d'un État juif est quelque chose qui est audible. S'il y avait eu 100 juifs, on n'en aurait pas parlé. Et donc la déclaration Balfour va amener une autre vague d'alia et une autre qui va arriver finalement à, au vote des Nations Unies, parce qu'il y a 450 000 juifs avant la Shoah en Israël, il y en a 600 000 en 1947, et donc et ben finalement ça amène à la création de l'État d'Israël, à la Géoula, parce qu'il y a deux personnes qui étaient attachées au Tzinor de l'État d'Israël et qui ont commencé à bosser comme une source qui remplit des piscines. Chazak, Obao.